Bonsoir Mathieu Laurent.
Bonsoir Julie et bonsoir à tous. Un autre conflit attire ce soir notre attention, Air France, avec une première réaction ferme de la part du gouvernement, 2 jours après le rejet de l'accord salarial dans le cadre d'une consultation interne. Nous nous rendrons au Liban avec un reportage de Marwaman sur l'une des listes de la société civile en lice aux législatives de ce dimanche, Koulouna Ouattani, analyse du politologue Antoine Basbousse. Un autre scrutin au sommaire de cette édition, les premières municipales depuis la révolution de 2011 en Tunisie. Puis à la fin de ce journal, nous rendrons hommage à un cinéphile absolu, Pierre Rissian, décédé la nuit dernière à l'âge de 81 ans. C'est la première prise de parole gouvernementale qui compte s'agissant de la crise à Air France, celle de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, s'est contentée, elle, d'un communiqué vendredi lors de l'annonce de la démission du PDG de la compagnie, Jean-Marc Janaillac. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, était ce matin l'invité de nos confrères de BFM TV.
La France était dans la bonne direction. Depuis 2 ans, il y a des efforts qui ont été faits. Ça commençait à avancer dans la bonne direction. Donc je ne comprends pas ces revendications aujourd'hui qui pourraient menacer la survie d'Air France. Et je le regrette encore plus que je crois dans Air France. Je pense que c'est une entreprise qui a des qualités exceptionnelles, qui a un fleuron, qui a une marque, qui a un savoir-faire, qui a une histoire, qui est une belle histoire, qui a pris des options stratégiques qui sont les bonnes. Le low cost, le positionnement géographique, la montée en gamme sur le long courrier, tout ça, ce sont des bonnes options stratégiques.
Ce sont les pilotes en particulier qui se sont montrés irresponsables ?
Je considère que les demandes des pilotes ne sont pas justifiées. Je le dis là aussi avec beaucoup de simplicité. Quand on a le niveau de rémunération actuel des pilotes, que l'on sait que l'entreprise est en danger, on ne demande pas des revendications salariales aussi élevées que celles qui sont aujourd'hui sur la table. Et j'espère qu'au bout du compte, la raison reviendra. Que chacun prendra conscience des enjeux. L'enjeu, c'est la survie d'Air France, le développement d'une compagnie à laquelle nous sommes tous attachés, qui est un fleuron national. L'État n'est pas là pour éponger les dettes, venir à la rescousse d'une entreprise qui ne ferait pas les efforts nécessaires de compétitivité. Je souhaite qu'on rétablisse le dialogue social, que la raison reprenne ses droits et que Air France puisse repartir du bon pied.
Les dettes de l'État, dettes partiellement renflouées par des cessions de participation de l'État, suivez mon regard. Celles, par exemple, d'Aéroports de Paris ou encore de la Française des Jeux. Bruno Le Maire a redit ses préférences pour ces deux structures, tout en jurant que le report de l'examen de la loi Pacte, cette fois envisagé en juin, loi qui comprend la vente de ces cessions, n'était pas due aux grognes sociales, tout en reconnaissant que le front social était éruptif, confère à la SNCF. La grève à la SNCF avec demain une table ronde, vous l'avez dit Julie, avec les partenaires sociaux. Table ronde animée par le Premier ministre. La CFDT accepte l'invitation avec prudence. Didier Aubert est secrétaire général de la CFDT Cheminots. Il répond aux questions d'Hakim Kasmi.
Je crois que soit on reste définitivement dans le bloc contre bloc et pour le coup, on ne sait pas ce que pourrait devenir ce conflit, radicalisation, on ne sait pas que c'est. Ouais. Ou alors il y a des annonces qui disent on reprend raison. Et que derrière ça, toute réforme, elle doit être négociée, c'est le sens des corps intermédiaires, où c'est pas seuls 350 députés qui décident de l'avenir de 5 millions d'usagers et de 200 000 salariés, et c'est ce qu'on espère. Après, on a un espoir tout à fait raisonnable, ou raisonné. Mais vous savez, avec ce gouvernement, c'est des nouvelles pratiques qui n'ont jamais été inaugurées ni par les uns ni par les autres. On s'aperçoit que même le plus mauvais gouvernement de droite négociait plus que ce gouvernement-là. Donc optimiste, mais très prudent.
Le premier secrétaire du Parti Socialiste souhaite que le parquet national financier puisse s'auto-saisir à propos des avantages qu'aurait reçu Emmanuel Macron de la part de la société GL Events lors de la campagne présidentielle de l'an dernier. Selon le site Mediapart, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a relevé des promotions exceptionnelles accordées par l'entreprise qui propose de l'événementiel. L'armée israélienne ouvre le feu sur 3 Gazaouis qui s'approchent du mur qui sépare Israël du territoire palestinien. 3 morts. Les autorités israéliennes font savoir qu'ils étaient équipés d'une caméra, d'un masque à oxygène et d'une paire de pinces. Au Liban, le fossé entre les aspirations au changement et les pratiques politiques reconduites, pour ne pas dire sanctuarisées par les partis dominants, ce fossé a très peu de chances de se réduire à la faveur des législatives de ce dimanche. Le parti chiite Hezbollah domine la pyramide, aucune coalition solide en face de lui. Les listes pourtant ne manquent pas, on en compte 77 pour 597 candidats. Notre correspondant au Liban, Omar Waman, a rencontré l'un de ces candidats, à la tête de la liste qui est en lice. Reportage.
C'est une liste qui fait couler beaucoup d'encre au Liban. Kulna Watani, littéralement, nous sommes tous la nation. Présents dans plusieurs circonscriptions, ces candidats issus de la société civile veulent faire entendre la voix de la majorité silencieuse, mais en colère. Léon Television, architecte.
C'est changer les choses, c'est vraiment remplacer la clique. C'est les chefs militaires qui ont gouverné pendant la guerre libanaise. Ils se partagent le pouvoir entre eux et ils font tout pour diviser le pays afin de garder leur place. C'est ça ce que j'appelle la clique du pouvoir.
Et cette liste, Kulna Watani, a suscité la curiosité de Roland, un ingénieur qui a décidé de franchir le pas.
C'est la première fois qu'on a une liste comme Kulna Watani. On va voir, espérons. Il faut toujours essayer. Si on n'essaye pas, on est mort.
Kulna Watani, dernier espoir pour de nombreux électeurs libanais qui ne se reconnaissent plus dans les partis traditionnels. Lori Aitayan, candidate sur cette liste, veut y croire.
Il y a ce sentiment que les gens veulent voter pour Kulna Watani, définitivement pour le changement, parce que les gens n'en peuvent plus.
Si certains des candidats de Kulna Watani pourraient être élus, cela ne sera pas suffisant pour peser sur les décisions du Parlement, majoritairement dominé par les ténors de la politique libanaise.
Bonsoir Antoine Basbousse. Antoine Basbousse, vous êtes censé être en ligne ?
Oui, je suis en ligne, je vous entends.
Bonsoir, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue et directeur de l'Observatoire des pays arabes. Cette liste évoquée à l'instant par Omar Waman, Kulna Watani, elle témoigne de la soif de renouvellement. Ces listes ont-elles une chance de peser sur le scrutin ?
Je crois que peut-être il y aura quelques députés qui se comptent sur les doigts d'une seule main, mais ça ne changera pas le système qu'à la marge. Donc il y aura quelques témoins de la société civile, c'est possible, c'est pas inenvisageable. Mais la scène politique libanaise, elle est dominée par le népotisme, par le féodalisme, par même les partis politiques sont des partis soit de communauté, soit de religion. Regardez le Hezbollah, c'est le bras armé des chiites, surtout de l'Iran au Liban. Le parti socialiste progressiste, c'est un peu Jumblatt et les Druzes. Bref, la scène politique libanaise et son système sont assez pourris pour pouvoir évoluer dans le bon sens.
Et Antoine Basbousse, qu'est-ce que le système de représentation proportionnelle peut changer ?
Pas grand-chose, à vrai dire, puisqu'il va reconduire les mêmes familles politiques, mais il va donner l'avantage, c'est certain, au Hezbollah qui pourra sortir avec 45 députés, ou autour de 45, sur 128 élus. Donc il pourra bloquer le système. Aucun pays ne pourra après décider de sanctions contre le Liban ou contre le Hezbollah, parce que le Hezbollah incarnera en quelque sorte le Liban avec cette force parlementaire. Donc la loi, elle a été voulue par le Hezbollah et elle va l'avantager. Il va devenir incontournable. Et quand on parle du Hezbollah, il faut rappeler son ADN, c'est le bras armé de l'Iran en Méditerranée. Sa création, sa naissance en 83 a été signée par l'ayatollah Khomeini à Téhéran. Donc vous voyez la causalité, le lien extrêmement fort entre l'Iran et le Hezbollah et la puissance que va récolter l'Iran à l'issue de ces élections.
D'un dernier mot, Antoine Basbousse, le Premier ministre Saïd Hariri, en grande difficulté il y a 6 mois pour avoir déplu à la théocratie saoudienne, devrait être reconduit à son poste de Premier ministre. Expliquez-nous.
Écoutez, d'abord, on ne connaît pas combien... le choix du Premier ministre sera décidé par les députés. Donc on ne connaît pas l'identité des futurs députés. Mais vraisemblablement, il le sera parce que c'est une coalition. Lui, il n'a pas de revendication, il a plu au Hezbollah parce qu'il a oublié de défendre les valeurs pour lesquelles son père est mort, c'est-à-dire le patriotisme et l'indépendance du Liban. Et là, il est dans un système où ça lui plaît d'être Premier ministre, il laisse les choses stratégiques au Hezbollah et il décide des petites choses, ça arrange tout le monde. Et lui, il est très content de ce rôle-là.
Merci à vous. Merci Antoine Basbouze d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes politologue et que vous dirigez l'Observatoire des pays arabes. Les partis en abus de position dominante concentrent les critiques également en Tunisie. Enida Tounes et Ennahda aimantent les soupçons de népotisme, de corruption. D'où le désaveu ambiant qui plane sur les élections municipales de ce dimanche. Et ce n'est pas faute d'accorder de l'importance à ce premier scrutin local depuis la Révolution. En témoigne le reportage à Tunis de Maureen Mercier.
Devant ce bureau de vote de la capitale, vous ne trouverez personne pour soutenir les partis au pouvoir. Cet homme, la quarantaine, a fait l'effort de se déplacer sans grand enthousiasme. Mais ça n'est en tout cas pas pour soutenir le parti du centre droit Ennahda Tounes, encore moins les islamistes de Narda.
Ni l'un ni l'autre.
Pareil pour lui.
Les partis politiques n'ont pas fait ce qu'on attendait d'eux. Ils sont avides de pouvoir, ils font pas leur boulot comme il se doit.
Pour qui vous allez voter ?
Pour des indépendants. On n'a plus confiance aux partis, donc c'est des gens du quartier qui vivent ici depuis des années, donc c'est à eux qu'on va donner la confiance.
Comme toutes les personnes qui se sont déplacées, la défense de la démocratie vaut bien mieux que tous les politiciens qui n'ont fait que de décevoir jusqu'ici. Ceux qui ne votent pas, Noureddine ne les comprend tout simplement pas.
Si on ne vote pas, alors il n'y a pas d'État. Hein.
Je ne peux pas le rater, c'est sûr.
Est-ce que ça vous procure comme sentiment ?
J'avais les doigts qui picotaient un peu. J'avais le cœur qui palpitait, c'est sûr. C'est un droit, donc moi j'en profite à 100%. Après, ce qui en résulte à la fin, ça c'est forcément, on va le suivre, c'est sûr. Bon, en Tunisie, tout se passe pour la première fois. Tout, sans exception. On est dans le test, on est dans les sessions pilotes. Et pour nous, tout le monde nous regarde. Le monde entier nous regarde. Et pour moi, c'est important.
Pour Nadia, 38 ans, quoi qu'il en soit, il fallait en être. Sans aucune illusion sur ce que ces élections changeront à son quotidien. Mais par principe, pour la consolidation démocratique.
Reportage à Tunis de Maureen Mercier. Les mots de Gilles Jacob, l'emblématique délégué général du Festival de Cannes, disent la richesse de Pierre Rissian et le trésor qu'il fut pour le cinéma américain, asiatique, d'auteur, le cinéma quoi. Quand il aidait quelqu'un, il le prenait sous son aile et l'aidait à déployer son art. Fin de citation. Pierre Rissian est parti la nuit dernière à l'âge de 81 ans. Il était découvreur, passeur dans l'ombre et si lumineux, Louis-Léventin Lopez.
Oui, pourtant il était partout, Mathieu. Mister Everywhere, c'est le nom d'une série de souvenirs de Pierre Rissian sous forme d'entretien publié il y a 2 ans. Son ouvrage est préfacé par Clint Eastwood, dont il était proche. Cet amateur de western accepté sur notre antenne de se définir comme un éclaireur.
Éclaireur, je trouve que ça, c'est noble, oui.
Ils partent devant les éclaireurs et on dit qu'ils reviennent pas toujours vivants.
Je suis encore en vie.
C'est plein de dangers, cette...
Ah, c'est plein de dangers.
Cette vocation d'éclaireur.
On peut en recevoir plein la gueule, ça c'est sûr. Mais je pas la question des dangers parce que j'allais de l'avant spontanément par rapport à ce qui me touchait, ce qui me passionnait et que j'avais envie de défendre, donc j'affrontais le danger.
Ouais. Pierre Rissian qui répondait à Martin Kénéen dans l'émission Ping Pong en 2016. Pierre Rissian, défenseur aussi de scénaristes parfois mis au banc par le macartisme comme Dalton Trumbo, promoteur aussi d'un cinéma asiatique alors méconnu, c'est ce que souligne Frédéric Bonneau, le directeur de la Cinémathèque française.
Quelqu'un comme Lino Broca, par exemple, le Philippin, qui est un cinéaste extrêmement important, c'est Pierre qui l'a littéralement inventé pour nous. Quelqu'un comme Edouard Yang, le grand cinéaste chinois, Pierre l'a inventé aussi. Une curiosité qui l'a emmené aux quatre coins du monde.
Je vous propose maintenant de remonter un peu le temps. L'une de ses premières histoires d'amour avec le cinéma, Pierre Rissian l'a vécu à 23 ans avec Jean-Luc Godard. Il était alors assistant réalisateur du chef-d'œuvre de la Nouvelle Vague, À bout de souffle. Une personnalité boulimique, insatiable du 7e art, Pierre Rissian nous quitte 2 jours avant que l'on déroule le tapis rouge du Festival de Cannes, où il a été conseiller artistique pendant 40 longues années.
Merci à vous, Louis-Valentin Lopez. Le temps de demain, orageux au sud-ouest, du soleil sur le nord, quelques brumes matinales en Normandie et quelques nuages sur les régions atlantiques. Cette édition a été préparée avec Brice Garcia.